France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Give Me Love, Supernature, ça fait 50 ans qu'il fait danser les foules. Il revient avec un album symphonique de ses meilleurs morceaux. Le roi du disco à la française, Céron, sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique au menu aujourd'hui deux bandes dessinées qui retracent le passé de leurs auteurs. La très percutante Sacré Bunch, bouffe, sexe, mort, douleur, romance, joie d'Aline Kominsky-Crumb. Et la délicate Les Jardins Invisibles, d'Alfred. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour aussi aux critiques Lucie Servin, journaliste à l'Humanité.
Bonjour.
Bonjour. Antoine Guillot, journaliste critique de cinéma et de bande dessinée, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
J'étais une étudiante de Beaux-Arts. J'ai fait ma diplôme en peinture. Mais je trouvais que le monde de Beaux-Arts, c'était pas pour moi. J'aimais pas les galeries, j'aimais pas les trucs élitistes. C'était les années 60, 70. Et j'ai trouvé que le BD underground, c'était le mouvement d'art le plus intéressant en cette époque. Parce que ça, c'était l'esprit de révolution.
La voix de la dessinatrice Aline Kominsky-Crumb, qui nous a quittés en 2022. Sacré Bunch, bouffe, sexe, mort, douleur, romance, joie. Le titre de cette anthologie annonce bien le programme. Avec cet album publié à l'association, une grande partie de l'œuvre d'Aline Kominsky-Crumb est enfin publiée en français. Celle qui fut une des pionnières du comic underground y raconte tout. Son enfance sous la coupe d'un père violent et incestueux, ses névroses, son rapport frénétique au sexe, les mouvements hippies des années 60-70, l'alcool, la drogue et puis bien sûr, sa vie avec son deuxième mari, le dessinateur Robert Crumb, avec qui elle s'est installée dans le sud de la France. Au passage, elle en profite pour brosser un portrait, un autoportrait d'ailleurs, au vitriol et se montre presque systématiquement sous son pire jour. Et c'est sa fille, Sophie Crumb, qui a traduit ses planches. Et on va commencer avec un avis rapide de nos critiques. C'est d'abord à vous, Lucie Servin.
Ben moi, j'ai envie de dire merci et enfin, parce que c'est une anthologie qui est parue chez Drone and Quarterly. Alors voilà, mon anglais est très mauvais. Et c'est aussi pour ça que je dis merci, parce que c'est quelque chose de très difficile à lire à Aline Kominsky en langue originale, puisque c'est de l'argot, enfin, elle a une langue propre à elle, qui est faite d'argot américain new-yorkais et de yiddish, avec son ascendance juive ashkénaze. Et donc, c'est presque illisible pour des gens qui maîtrisent très peu l'anglais comme moi. Et c'est vraiment une anthologie qui est importante. Et les dernières personnes qui m'en ont parlé, c'était des autrices très jeunes qui ont fait le fanzine FFF. Donc, encore une fois, là, mon anglais va être mauvais, mais c'est Fanatic Female Frustration. Mais voilà, donc elles ont remporté le prix de la BD alternative là, cette année à Angoulême. Et c'est 100 pages qui réunissent 12 autrices qui rendent hommage à Aline Kominsky, qui a disparu dans une relative indifférence en 2022. Et qui mettent toute leur énergie et tout ce qu'elles lui doivent. Et je pense que c'est cet héritage de cette espèce d'angle mort de la bande dessinée. Et donc il faut d'abord remercier Sophie Crumb de nous avoir
d'avoir traduit, ouais.
D'avoir traduit et l'association d'avoir édité.
Antoine Guillot.
Oui, ben je suis sur le même mode. C'est un livre très important qui vraiment rétablit un chaînon manquant de l'histoire de la bande dessinée. On ne comprend pas l'émergence d'une Alison Bechdel ou d'une Julie Doucet sans voir et lire Aline Kominsky-Crumb. C'est le livre qui l'a fait enfin sortir de l'ombre de son mari.
Mmh. Voilà. Alors, Lucie Servin, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet album, puisque on la découvre, en fait, on découvre toute son histoire. C'était quelque chose qui était passé sous les radars, effectivement.
Alors, moi, ce que je retiens d'abord de son histoire, donc, c'est sa manière à elle de se présenter et surtout cette manière de se déprécier, c'est-à-dire qu'elle va se dessiner plus monstrueuse qu'elle est, parce que c'était une belle femme charismatique et absolument impressionnante et elle-même était artiste dans son personnage vivant. Et là, la manière qu'elle a d'arriver à la bande dessinée, c'est une manière de se représenter monstrueuse, telle qu'elle se voit dans le regard. Et ça, c'est quelque chose de très féminin. C'est-à-dire que comment, en tant que femme, on intériorise un regard dépréciatif et monstrueux par rapport au regard que nous renvoie la société, une société des apparences, qu'elle va critiquer, contre laquelle elle va s'émanciper. C'est vraiment un livre d'émancipation, mais c'est vraiment ce côté grotesque. Et surtout, elle arrive à la bande dessinée avec le sonore qu'on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire avec son influence des Beaux-Arts, avec le cubisme de Picasso et surtout l'expressionnisme allemand. Mmh. Et ça, pour moi, quand elle-même dit qu'elle ne sait pas dessiner, je trouve ça assez fort, parce qu'en fait, sont très mal dessinées, et elle-même un langage, et elle fait du langage brouillon et expressif, quelque chose de qui va vers l'affirmation de soi. Mmh. Et moi, ce qui m'a plu dans ce qu'elle raconte, au-delà du témoignage d'époque que ça peut représenter, c'est l'extrême actualité en fait de sa manière de se représenter en tant que femme et de se sortir, de s'émanciper par le brouillon. Il y a une revendication du brouillon chez Aline Crumb, et voilà.
Antoine Guillaume.
Oui, c'est un livre qui est tout à fait passionnant, qui est assez difficile à lire par moments.
C'est très violent au début, quand même.
Dès le début, elle vous met dans le bain. Il y a une des premières histoires qui s'appelle Bunch Plays With Herself. Bunch se tripote et vous la voyez effectivement se percer des boutons devant le miroir, se gratter le cul et renifler son doigt en disant « ça pue et j'aime ça » et finir ces deux planches par « mon corps est une source infinie de divertissement ». Et c'est un des grands apports précisément d'Aline Kominsky-Crumb à la bande dessinée, c'est l'expression du corps féminin. Sans en faire un temple, comme auraient voulu en faire ses collègues féministes de l'époque, elle sera rejetée très très vite.
Oui, c'est ça, parce qu'elle est accueillie aujourd'hui, mais elle a été rejetée au début
Elle est rejetée un peu par tout le monde. Mmh. Elle est rejetée d'abord par les féministes et par Trina Robbins, qui était la grande papesse du mouvement Women's Comics, qui l'avait accueillie au début, mais qui lui dit « mais tu peux pas passer ton temps à dire du mal de toi comme ça et à te montrer avec tes grosses jambes ». Et Aline Kominsky Kominsky-Crumb dira, mais moi je les aime, mes jambes cosseux comme ça. Et puis c'est ce que je ressens et je dois exprimer quelque chose. Donc c'est un mauvais exemple de ce côté-là. De l'autre côté, elle sera rejetée par les adorateurs de Robert Crumb qui voient en elle une sorte de Yoko Ono qui détourne Crumb de son devoir sacré. Le pire, c'est quand ils font des bandes dessinées ensemble. Il y a toute une série qui avait été en partie traduite en France qui s'appelait les Dirty Laundry Comics, c'est-à-dire le linge sale en famille, ou les self-loathing comics, c'est-à-dire les comics d'autodépréciation, et c'est effectivement ce qu'elle fait. Mais quand elle mettait son dessin à côté de celui de Robert Crumb, les gens disaient « mais nous, on veut voir le dessin de Robert Crumb qui est merveilleux, de précision et de beauté, on ne veut pas voir ces horreurs qu'elle dessine très mal ». Or, quand on est pris par ce dessin-là, justement, du début à la fin, on rentre non seulement dans une psyché complètement névrosée, mais qui fait de cette névrose de l'art, précisément. Mais surtout, on aime de plus en plus ce personnage. Le titre original, ça s'appelait Love That Bunch. Là, c'est Sacré Bunch, mais Love That Bunch, c'est aimer cette bunch. C'est quoi la bunch? Il faut quand même préciser pourquoi ça s'appelle comme ça. En anglais, la bunch, c'est le tas. C'est le gros tas. Et ça vient au départ du diminutif, c'est une histoire assez extraordinaire. Quand elle rencontre Robert Crumb, Robert Crumb a dessiné un personnage qui s'appelait Honey Bunch Kaminsky, elle s'appelle Kominsky, et elle s'identifie complètement à ce personnage, et ce sont deux grands névrosés qui se rencontrent sur des fantasmes sexuels communs, qui nous sont complètement exposés dans ce livre. Imaginez la fille de ce couple qui traduit ces histoires, sachant qu'elle-même est un des personnages du livre, se revivant aussi comme pas terrible comme on peut être à l'enfance, à l'adolescence dans son égoïsme. Et ce couple-là était un peu mythique, mais tout d'un coup on découvre sa vie à elle, quoi. Et ça, c'est bouleversant. La dernière histoire où elle raconte tout son trajet qui l'a fait partir de ce quartier juif de Long Island, mais complètement dingo. Déjà, son père est un escroc notoire qui rate tout ce qu'il entreprend. Sa mère ne pense qu'à la faire maigrir en permanence, même si elle est tout à fait...
Elle est très belle.
On ne pense qu'à la rhinoplastie, tout ça. Elle expliquera, d'ailleurs, tout d'un coup, quand elle va débarquer en Californie, elle va être complètement exotique pour tout le monde, parce que elle est dans son corps charpenté de juive new-yorkaise qui plaît beaucoup parce que ça la sort de ces blondes californiennes qui sont toutes les mêmes. Je m'égare un peu, mais le livre part comme ça dans tous les sens. Et justement, cette dernière histoire où elle va raconter ce parcours qui va l'amener dans ce petit village du Languedoc où elle a entraîné toute la famille Crumb, où tout d'un coup, elle va faire une interruption de 14 ans dans l'histoire qu'elle raconte, et tout d'un coup, on est complètement pris et bouleversé par cette femme. C'est quand même très fort, en déversant tout ce qu'elle nous montre. Elle nous cache rien de sa vie, de son corps, de ses excrétions, tout ça. On touche à une âme, en fait, qui est tout à fait bouleversante. C'est très surprenant sur ce livre qui aurait tout pour vous rebuter au début en disant quand même, elle y va fort. Et à force de nous habituer à ce ton-là, elle m'a laissé presque en larmes à la fin.
Ah oui. Lucie Servin, même émotion pour vous ?
Oui, et je rajouterais que donc, la chose primitive avec Aline Kominsky, c'est que je pense qu'il y a vraiment une bataille avec la question de la séduction. Oui. Et elle veut rentrer dedans, elle veut être le premier mot qui m'a frappé, moi, c'est unromantique, donc non romantique, et donc cette manière de vouloir se mettre à nu. Et donc cette mise à nu part au départ dans les années 70, on est dans un rapport de transgression, c'est-à-dire dans un rapport de la BD underground contre le capitalisme, mais aussi contre la censure des comics aux États-Unis à ce moment-là. Donc elle s'inscrit en fait quand même dans un climat. Elle cite d'ailleurs sa référence à Justin Green, qui est la première autobiographie en bande dessinée qui va aussi inspirer Art Spiegelman. Donc on est quand même dans un univers. Et la première force de départ que j'ai ressentie, c'est la force transgressive. Mais là où ça va bien au-delà, c'est que elle a fait, dans son processus critique, pour moi, elle devient quelqu'un de vraiment de subversif. Et la maison de rêve, la dernière histoire que tu évoquais, parle de ces enveloppes, parle de ces prisons et de ces manières de s'identifier aussi dans le dessin, les surajouts de textes. On voit qu'au fur et à mesure du temps, c'est ça qui est beau aussi dans cette anthologie, c'est que les histoires sont plutôt des années 70-80, puisqu'il y a une première édition en 90, et puis ensuite il y a eu des rajouts. Et c'est ce phénomène de rajouter à l'enveloppe, c'est une manière de reprendre possession et aussi d'être dans un processus critique qu'elle a développé dès le départ et qu'elle arrive à exprimer de plus en plus d'une manière apaisée, parce que c'est aussi quelqu'un qui part d'une extrême violence, qui parle de viol, qui parle de maternité non désirée, et qui en parle même sans exprimer le mot viol.
Le
mot viol n'est pas exprimé, et pourtant elle le montre d'une manière frontale et évidente, et qui arrive quand même à la fin à avoir même une relation d'amour, avec Crumb. Donc comment expliquer aussi ce rapport apaisé et en même temps faire surgir l'amour toujours dans cette espèce de dynamique. Et c'est quelqu'un qui en fait joue avec la domination, n'en sort pas, traite de son conditionnement et arrive à dépasser ce conditionnement dans ce schéma en perpétuelle bataille. Et c'est là où Aline Kominsky dépasse même le côté monument, repère dans l'histoire de la bande dessinée et ultra inspirant pour des autrices encore aujourd'hui, parce que on a tous encore des conditionnements, on a tous encore des femmes ou hommes d'ailleurs, et on a à lutter sur cette domination intériorisée. Il y a vraiment ce rapport extérieur-intérieur qui est assez fascinant dans ce qu'elle fait.
Lucie Servin parlait de l'influence de l'expressionnisme allemand. Antoine Guillot, on peut décrire un peu le trait. Et effectivement, tous ces textes qui décrivent l'image qu'on voit, il y a souvent beaucoup d'humour d'ailleurs.
Oui, alors c'est un trait qui est à la fois fragile et très âpre. C'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de ressemblance et de cohérence d'une case à l'autre. Elle a un visage notamment qui est toujours très évolutif. Elle a un côté aussi obsessionnel dans sa façon de remplir et de saturer la case par des traits, par des hachures, par du noir, et notamment dans sa façon de dessiner ses cheveux. On a presque le sentiment que ça la pèse, que ça la met dans une espèce de transe. d'enfance, sa manière d'onduler comme ça. Et puis tout d'un coup, on a des visages qui ressurgissent, notamment celui de sa mère, qu'on imagine vieille, surmaquillée et complètement terrifiante. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement les récurrences de motifs qui reviennent, puisque nous, on le lit dans un seul livre, mais tout ça a été publié au nombre des au fil des années dans des fascicules, dans Weirdo notamment, dont elle était la rédactrice en chef. À l'époque, et on voit notamment ce visage de cette mère avec ses dents triangulaires qui est prête à la dévorer et qui revient à plusieurs, comme si c'était une image comme ça qui l'avait frappée. En fait, on voit dès le début que c'est une image d'enfance où elle a vu débarquer sa mère alors qu'elle était en plein trip de drogue à fantasmer sur George Harrison et que sa mère débarque dans sa chambre. Mais, c'est bon, elle est bien rentrée, elle est bien là. Et c'est la même tête qu'elle fait plus tard quand elle force sa petite fille a mangé des bananes parce que c'est bon pour sa santé, jusqu'à ce que la petite fille, c'est un hommage à vous, les bananes, Marie Laborie.
Je mange beaucoup de bananes pendant les émissions.
qu'elle finit par vomir sur son jogging customisé hors de prix. Et voilà, il y a des choses qui reviennent. Et ce qui revient notamment, c'est la rencontre avec Robert Crumb. Elle est racontée au moins 5 fois. C'est-à-dire la première rencontre où Robert Crumb trouve qu'elle a des genoux magnifiques. C'est quand même, je crois que c'est la seule fois où je vois un coup de foudre amoureux qui se fait sur des genoux comme ça. Alors, on connaît le fétichisme de Crump pour les jambes puissantes des femmes musclées, mais pour elle, c'est un souvenir presque qu'elle chérit et qui revient régulièrement. Et ça fait partie voilà, de ces moments au milieu de ce fatras qui peut par moments nous écraser complètement. C'est les petites touches d'humanité qui la rendent, encore une fois, terriblement troublante et touchante.
Sacré Bunch, traduit de l'anglais par Sophie Crumb avec Jean-Paul Mercier, c'est à l'édition, aux éditions de l'Association. Antoine Guillot, c'est l'heure de votre coup de cœur.
Alors, on va rester dans le beau, le brut et le brutal. Ça s'appelle La Montagne, d'un certain Valfray, accompagné à l'écriture de quelqu'un qui s'appelle Comme le Vent. Alors, tout ça est très poétique. Je vous montre la couverture. Vous avez un paysage, effectivement, un peu nuageux, avec un tracteur dans une prairie. Vous ouvrez la page. Alors, quand je dis que c'est brut, l'édition est de même, puisque c'est un album cartonné, mais sans pelliculage. Donc, on a ce côté un peu qui sort. Alors, vous voyez de très beaux paysages, mais le premier que vous regardez, en fait, vous rendez compte que c'est un tas de fumier. Et vous aurez de très belles images montagnardes, mais quand vous lisez le texte qu'il y a, je vous en cite une page. Hein. Nous avons une jolie petite chapelle avec une statue de la Vierge Marie au milieu des conifères agitées par le vent. Et là, je vous lis le texte qu'il y a peint au-dessus, parce que tout est peint, hein. C'est à l'aquarelle et à la gouache. Derrière la chapelle, ça sentait la pisse et la sueur. De temps à autre, pas tous les jours, on retrouvait des capotes jaunies par les aléas météorologiques. On se disait que la Vierge stimulait pas que la foi. Mon père, lui, il s'en souciait peu. Il s'y arrêtait que pour l'anniversaire de la mort de son frère. Il nous racontait à chaque fois combien les ouvriers de la commune en avaient chié pour monter tous les matériaux, ça le faisait rire. Il disait qu'une région comme ça, soit on y fout le feu, soit on la quitte dans un virage en épingle. Voilà. Et alors, vous avez tout le ton de cette histoire qui est racontée quasiment uniquement par des paysages, vus de loin. Quand vous avez des humains, vous les voyez de très loin, ou alors le visage est coupé. Et ce flot torrentiel du langage dont je vous ai cité un moment, c'est à la fois célinien et rimbaldien, c'est celui d'un adolescent qui se fait chier dans ce paysage, qui voit les touristes arriver et qui se marre quand il se casse la gueule à VTT, qui de temps en temps tire un coup avec son copain dans les cimes jusqu'à ce que son copain l'abandonne pour aller poursuivre ses études et qui a une violence, une rage au milieu de paysages sublimes qui est stupéfiante. Quoi. Enfin, j'ai rarement et pas récemment lu quelque chose d'aussi puissant, d'aussi fort, à la fois dans la rage, dans l'élégie, dans une façon de chanter le paysage et la douleur. C'est un moment de poésie complètement sublime. Ça s'appelle La Montagne. Ne ratez pas ça. Vous vous en remettrez pas, mais vous vous replongerez dans la beauté et la puissance de ce livre. C'est au Frémok et c'est signé Valfray.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
je me faufile toujours à l'intérieur de tous les personnages. Je m'immisce à l'intérieur de leurs propos, à l'intérieur de leur vie. Je me brouille moi-même les pistes un peu, même par moments, mais j'ai besoin d'avoir la sensation que les personnages me permettent de raconter des choses qui me sont très personnelles.
Le dessinateur Alfred, c'est un album qui commence par un mot d'ailleurs de son auteur, à nous lecteurs, comme une petite lettre d'intention. Alfred explique que quand il était enfant, il dessinait pour ne pas disparaître. Il était persuadé que s'il ne dessinait pas, son entourage l'oublierait. Et il a continué à remplir des carnets de ses croquis. C'est de ses dessins, qui sont désormais des souvenirs, que vient ce livre, Les Jardins Invisibles. Des petits bouts de vie qui ont changé le cours des choses. Imperceptiblement. Alfred, de son vrai nom Lionel Papagali, est aussi illustrateur, musicien, performeur. Il pratique aussi le dessin en live, sur scène. Il a remporté le prix du meilleur album à Angoulême pour Come Prima, c'était en 2014. On commence avec un avis rapide, Antoine Guillaume.
Alors, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est en apparence beaucoup plus gracile. Ce sont les petits riens de la vie. Or, derrière tout ça, on peut sentir comme une angoisse sourdre. Vous l'avez dit, il dessinait pour ne pas disparaître. Ensuite, il s'est mis à dessiner pour que les choses ne disparaissent pas autour de lui. Et finalement, dans ce livre très coloré, il y a quelque chose de très angoissant derrière.
Lucie Saint-Vin.
Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous dire, va peut-être vous surprendre, mais je pensais à Proust, en fait, en lisant Les Jardins Invisibles, et je me disais que c'est un peu le carnet des carnets, c'est une espèce de retour à l'os du travail de la matière première, mais c'est un peu un livre aussi qui vient après la trilogie italienne, donc des albums de fiction qu'a fait Alfred, qui sont Come Prima, Senso et Maltempo, et c'est un peu comme si on commençait la recherche avec Le Temps Retrouvé.
Mmh. Antoine Guillot, l'angoisse, elle apparaît de la dichotomie, le décalage entre le dessin et ce qu'il raconte finalement.
Mais c'est-à-dire que oui, vous ouvrez ce livre, vous le regardez, c'est un dessin qui est très élégant, très délicat, les couleurs évoquent l'Italie, c'est très chaud, c'est des jaunes, des orangés, c'est très étrange parce que finalement, je partage ce côté proustien, c'est-à-dire que c'est vraiment un exercice d'anamnèse où un souvenir va en enclencher un autre. L'écriture est assez subtile, la manière de passer d'un souvenir à l'autre. Mais c'est très étonnant quand même cette histoire d'un gamin. Donc ses parents sont comédiens, ils sont toujours en tournée, il est souvent resté laissé seul. Et puis quand il n'est pas seul, il est entouré d'un brouhaha permanent. Ça a l'air d'être la fête totale et permanente à l'italienne dans ce petit village au bord de la mer, en Ligurie. Et lui se réfugie. C'est très étonnant parce que si on compare vraiment avec Sacré Bunch, où là il y a un passé traumatique, une famille atroce, enfin on comprend qu'il ait fallu toutes ces pages. Lui, on peut se dire voilà, il a plutôt eu une vie heureuse avec des parents aimants, tout était sympathique. Et pourtant, il y a déjà ce sentiment de la perte, gamin. Ce côté très étrange, comme c'est tordu de se dire si je ne dessine pas, je vais disparaître et surtout personne ne se rendra compte que j'étais là. Donc ce besoin de laisser une trace, peut-être justement parce qu'il avait des parents extrêmement hauts en couleur et que lui était réservé, et de se rendre compte qu'en fait, en voulant exister simplement, il a laissé des traces de lui. Il retourne à des dessins qu'il avait pu faire enfant, juste un dessin laissé sur un photomaton jusqu'à ce que le photomaton lui-même disparaisse. Et puis cette angoisse qu'effectivement les gens disparaissent, et comment les maintenir, on va les maintenir en dessin, et que les souvenirs disparaissent. Il y a un moment très, 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 assez émouvant et qui devient de plus en plus difficile à lire dedans. C'est un moment où il se souvient d'une photo qu'il va redessiner avec ses feutres d'enfant, et puis il va se lancer dans toute une série qui va prendre de plus en plus de place. À la fin, c'est des toutes petites vignettes, comme si on pouvait à la fois arrêter le temps et convoquer, en fait, convoquer ce passé qui, résultat, est là. Résultat, il vit toujours avec. Et c'est souvent l'idée qui revient. À un moment, ils habitent Venise et puis ils vont partir. Il fait un petit dessin de sa fille avant de partir sur une margelle. Bizarrement, il la retrouve le lendemain dans un autre carnet de dessin de Dupuis et Barbérian, à l'époque où ils avaient fait un carnet de dessin à Venise, et en disant, ce dessin, il sera toujours là. Et cette histoire, ce passé, même si je l'ai perdu, sera toujours là. Donc, c'est tout un livre, en fait, sur la puissance du dessin. C'est un livre presque théorique sur la capacité du dessin à faire, pas tant à figer le temps qu'à le faire revenir. Et c'est là le retour, effectivement, le côté proustien.
Lucie Servin.
Oui, et alors en même temps, il y a cette angoisse de la disparition. Il y a même la métaphore du petit pousset qui est explicitement à un moment donné. Et on voit le livre, il y a aussi un côté réparateur, en fait, du livre. C'est-à-dire que c'est des moments décousus, mais qui rendent hommage aussi à des moments qui ne pèsent rien.
Oui, c'est des petites choses.
Voilà, mais qui déterminent l'influx d'une vie. Et c'est vraiment aussi un dialogue entre le réel et l'imaginaire. Et c'est aussi à la manière dont on se raconte. Et moi, j'ai lu ce livre comme si on retournait un tissu et qu'on regardait les coutures. Et c'est un livre sur les coutures. Et c'est aussi un livre sur le dessin, mais c'est un livre sur la bande dessinée. Et c'est-à-dire, c'est un livre sur les trous et sur la capacité de la bande dessinée à réparer par l'ellipse. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation d'absence qui est omniprésente, y compris dans le trait d'Alfred, parce que c'est un trait très ténu, très propre. On pense presque à Sempé quand on lit Alfred. Et puis, il y a ces apports de luminosité, de couleur, et aussi ce rapport au paysage. Et ça aussi, c'est très proustien, dans le sens où les lieux vont déterminer aussi un moment. Et cette Italie, parce que c'est quelqu'un qui est un petit-fils, en fait, d'immigrés italiens. C'était ses grands-parents qui étaient en Italie. Ses parents se sont venus s'installer en France. Et il y a cet attachement au pays qui est porté par la filiation et qui reproduit dans ces paysages et qui occupe presque tout le livre. C'est un livre italien. Et on est sur le fil, on est sur le fil recousu, et on est sur aussi les questions de filiation et de transmission. Et c'est pour ça que derrière l'angoisse de la disparition, il y a aussi quelque chose de très réparateur, en fait, dans ce livre.
Mais c'est l'arrivée de sa fille aussi qui provoque, finalement, ce regard vers le passé, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs.
Oui, et ça commence même par un moment de bascule, ouais. Le moment où sa fille, tout d'un coup, lui montre des choses et s'en sort mieux que lui. Et il a une manière, là, je trouve, très, très forte de passer de ce très, très fin, précisément, à la plume, à tout d'un coup, des sortes d'épiphanies au pinceau qui épaississent le trait et qui prennent toute la place. Notamment ce moment-là où ils sont perdus dans le port de Naples sur le tournage de Come Prima et tout d'un coup ils réalisent que c'est sa fille qui s'occupe de lui parce que c'est elle trouve son chemin, ou la première fois qu'ils arrivent à Venise, la nuit ils se promènent avec le bébé dans les bras et tout d'un coup la neige tombe sur Venise. Et le dessin change totalement à ce moment-là et ça provoque un choc graphique qui est aussi un choc émotionnel assez magnifique. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien ses effets, mais de manière subtile.
Les Jardins Invisibles d'Alfred, c'est paru chez Shampoing le 15 janvier dernier. Antoine Guillot, Lucie Servin, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Toutes les infos sont sur la page des Midis de Culture.